Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. En raison des changements climatiques, de nombreux bouleversements affectent maintenant toutes les régions du monde. Face à des situations climatiques extrêmes qui ont eu lieu ou qui surviendront fort probablement sur notre territoire au cours du XXIe siècle, il est constaté que les protections de la santé et de l'environnement convergent. Mais pourquoi ? Quel type d'actions peuvent mener les collectivités locales françaises ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Pascal. Vous êtes chargée de projet scientifique Air, Climat et Santé chez Santé publique France. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Mathilde, avant d'aller plus loin sur le sujet, pouvez-vous présenter à nos auditeurs et auditrices les liens entre le changement climatique et la santé humaine que j'ai évoqué en introduction ?
Oui, le changement climatique, en fait, c'est un terme qui recouvre une très grande diversité de situations, avec des modifications de paramètres météorologiques comme la température, par exemple, ou l'occurrence d'événements climatiques extrêmes de type inondation, des ouragans qui sont plus intenses, des sécheresses. Mais c'est aussi, derrière le changement climatique, il y a aussi des répercussions qui sont déjà documentées sur les écosystèmes, sur les cycles naturels comme le cycle de l'eau, sur la pollution de l'air. Et finalement, en fait, ce changement climatique, il impacte de manière très importante la totalité de l'environnement dans lequel nous vivons et qui conditionne notre santé. Donc ces influences du changement climatique sur la santé, ils sont imaginées, pensées, conceptualisées depuis les années 80. Et aujourd'hui, on considère qu'il faut s'attendre à ce qu'on appelle les effets directs, qui sont en fait la conséquence des changements, principalement en termes d'événements météorologiques extrêmes. Donc une augmentation des canicules, un changement de fréquence dans les précipitations, dans les sécheresses, une augmentation des conditions favorables aux incendies. Et donc les effets directs de tous ces événements climatiques extrêmes sur la santé. Donc ils vont être des effets en termes de décès, de traumatisme, mais également des effets sur la santé mentale, des effets sur la destruction d'infrastructures, dont des infrastructures de santé, etc. Après, il y a un deuxième bloc d'effets qui sont ce qu'on appelle les effets indirects, qui passent par la modification des écosystèmes, qui sont comment le changement climatique va jouer sur la pollution de l'air, sur la pollution de l'eau, comment il va jouer sur l'accès à des ressources fondamentales qui sont l'eau potable ou les ressources alimentaires. Et puis, il y a un dernier type d'effet qui sont des effets indirects via des déterminants socio-économiques de la santé. Donc le changement climatique, que ce soit par ses effets directs en termes d'événements extrêmes ou ses effets indirects sur des modifications profondes de l'environnement, il va conduire à des déplacements de population, à des destructions d'infrastructures, à des pertes de moyens de subsistance, voire à des conflits. Et tous ces éléments ont eux-mêmes des effets sur la santé qui sont très importants et qui touchent tous les aspects de la santé physique, la santé mentale, le bien-être et la capacité d'accès aux soins.
Merci Mathilde pour ces informations. Si je vous ai bien compris, ces changements impactants pour partie l'environnement ont des conséquences directes ou indirectes sur la santé humaine, hein, c'est bien ça?
C'est ça. En fait, je pense que assez intuitivement, on va penser changement climatique et augmentation des canicules et les impacts sanitaires associés. Donc ça, c'est vraiment dans les effets directs. On a eu un très bon exemple en fin d'année dernière avec l'Australie, où l'Australie a dû faire face simultanément à plusieurs effets qui sont en partie influencés par le changement climatique, donc qui sont une chaleur extrême, des conditions de sécheresse et de chaleur qui ont été très favorables à des incendies, à des feux de forêt, et en même temps des inondations dans certaines zones d'Australie, et des tempêtes. Donc finalement, simultanément sur un même territoire, quatre types d'événements dont on sait qu'ils sont influencés directement par le changement climatique.
Oui, effectivement. Mathilde, comment réagissent les organisations humaines compte tenu de la variété de situations climatiques qu'elles ont à affronter?
Alors, face à ces modifications et en particulier face aux effets directs qui sont très visibles et très frontaux, se mettent en place ce qu'on appelle des mesures d'adaptation qui visent à réduire les impacts négatifs, les impacts délétères sur la santé, et donc qui ne jouent pas directement sur le changement climatique, mais qui jouent sur la réponse aux risques qui sont modifiés, amplifiés par le changement climatique. Et puis, il y a tout un ensemble de mesures qu'on appelle l'atténuation qui vise cette fois à réduire l'amplitude du changement climatique dans les décennies à venir. Et ce qui est très important à comprendre aujourd'hui, c'est que face au changement climatique, on est sur une temporalité qui est très particulière, qui s'étend sur plusieurs décennies. Et en fait, aujourd'hui, grâce aux modèles climatiques et aux modèles environnementaux, en fait, on sait relativement bien ce qui va arriver jusqu'à peu près en 2040. Et on sait que ce qui va arriver jusque dans les 20 prochaines années dépend très peu des choix qu'on fait aujourd'hui en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc quoi qu'il arrive, même si on devient subitement extrêmement vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il faudra quand même gérer les conséquences du changement climatique actuel jusqu'en 2040. Il faut s'adapter. Donc l'adaptation, elle est inéluctable et indispensable pour protéger la santé. Et les choix qui sont faits en termes d'émissions de gaz à effet de serre et en termes d'atténuation, ces choix-là, en fait, ils vont commencer à avoir des conséquences sur le système climatique à partir de 2040 et au-delà. Et donc ces choix-là, ils sont déterminants pour la santé des générations futures. Et on voyait que 2040, c'est pas dans très longtemps. Donc quand on dit génération future, c'est la santé des enfants qui naissent aujourd'hui. Des gens qui aujourd'hui ont une vingtaine d'années qui vont être totalement concernés par ce qui se passe au-delà de 2040.
Alors on constate que donc il y a des enjeux d'environnement qui ont des impacts après sur la santé, donc il y a des enjeux aussi de santé. Est-ce qu'on constate une convergence ou il y a des divergences entre ces deux enjeux?
Alors de plus en plus, je pense, la prise de conscience que l'environnement et la santé sont très liés est présente. On a de plus en plus des notions comme la notion une seule santé, la notion One Health, qui vise à comprendre et à penser la santé des humains comme dépendant de la santé des écosystèmes, de la santé du monde animal, du monde végétal. Donc la prise de conscience de ces liens entre santé et environnement, je pense qu'elle est de plus en plus prégnante. Après, en termes de mise en place de mesures, ça reste encore compliqué. D'une part parce que on fonctionne encore sur des modes très disciplinaires, que ce soit au niveau de l'action sur le terrain, dans la mise en place de politiques, mais aussi dans la production de connaissances scientifiques qui soutiennent ces actions. Et de plus en plus aujourd'hui, on encourage et on va vers des actions interdisciplinaires pour justement faciliter cette convergence entre environnement et santé et qu'elle dépasse le niveau de la prise de conscience pour aller vers le niveau de la connaissance et de l'action sur le terrain.
Oui, effectivement. Mathilde, au cours de notre discussion, vous avez évoqué l'existence de mesures d'adaptation et de mesures d'atténuation. Donc là, vous venez de nous parler de la partie académique, au sens le savoir scientifique et le savoir météorologique, etc. Mais qu'en est-il lorsqu'on passe de la théorie à la pratique? Quel type d'actions peuvent mener localement les collectivités?
Alors si on prend sur le volet de l'adaptation qui est celui sur lequel on a le plus travaillé du point de vue de la santé à Santé publique France, en fait l'adaptation elle recouvre différents enjeux, différents niveaux d'intervention. On peut avoir une adaptation qui soit vraiment une réponse à un événement particulier. Par exemple, la mise en place de mesures spécifiques en cas de canicule. Et donc là, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites dans les villes. Donc il y a les registres de personnes vulnérables qui sont une mesure obligatoire dans les mairies et qui permettent pendant une alerte canicule, de contacter les personnes qui se sont identifiées comme vulnérables et d'organiser des visites à domicile, de vérifier que les personnes vont bien et si c'est pas le cas, de s'assurer d'une prise en charge adaptée. Donc ça, c'est un exemple d'action qui est vraiment en réponse à un risque très particulier et très ponctuel. Après, il y a un deuxième niveau d'adaptation qui est la gestion du risque de plus long terme. Donc si on continue à prendre cet exemple de la chaleur, là, on va avoir des interventions, par exemple, sur l'environnement urbain pour réduire l'îlot de chaleur, ou des interventions sur les bâtiments, par exemple sur les écoles, pour rendre les écoles plus adaptées à des températures plus élevées et permettre un bon confort thermique qui va favoriser l'apprentissage des enfants, y compris quand on n'est pas en période de vague de chaleur. Donc là, on est sur une gestion de plus long terme qui n'est pas uniquement une adaptation ponctuelle à l'urgence, mais une adaptation à la réalité de l'évolution des températures. Et puis, il y a un troisième niveau d'adaptation qui est une adaptation, on va dire, plus transformationnelle, qui vise vraiment à adapter les process, à adapter les institutions, à adapter les manières de penser. Donc là, ça va être des actions qui vont jouer sur de la formation, par exemple, former les professionnels aux enjeux climatiques, aux besoins d'adaptation, de manière à ce qu'ensuite ils puissent l'intégrer dans leur pratique quotidienne. Ça va être faciliter la mise en réseau de disciplines et de services qui ne travaillent pas forcément ensemble et ou pourtant dont l'éclairage croisé va être essentiel à la construction de mesures d'adaptation cohérentes et efficaces. Et donc là, on est sur une adaptation qui ne vise pas un risque en particulier, mais qui vise à donner des outils aux professionnels pour qu'ils puissent justement se projeter dans la mise en place et la création de mesures d'adaptation spécifiques. Donc on est vraiment là dans de l'organisation, dans de la formation, dans de la mise en réseau aussi avec des universitaires. Il y a des expériences assez intéressantes sur les territoires de travaux faits par des universitaires, comme par exemple en Nouvelle-Aquitaine, Aclimatera, qui visent à produire de la connaissance justement académique, mais cette connaissance à la mettre directement au service des professionnels qui doivent ensuite la décliner en mesures concrètes d'adaptation.
Effectivement, là, à vous entendre, il y a déjà des outils, mais moi, en tant que citoyen, j'ai l'impression que le passage à l'action par les collectivités pour atténuer ces effets ou s'adapter aux situations n'est pas à la hauteur du défi présent. Qu'en pensez-vous, Mathilde ?
Je pense que la prise de conscience, elle est là. Après, les actions à mener en termes d'adaptation et puis en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle nécessite des changements assez importants dans la manière de concevoir. En fait, les changements sont importants parce que justement, il faut arrêter de prendre les sujets un par un, mais il faut vraiment réussir à avoir cette vision d'interdépendance entre les sujets. Et il faut arrêter de se projeter dans de la gestion à très court terme, mais se projeter dans une gestion qui nous emmène sur plusieurs décennies. Et où des choix faits aujourd'hui ont des répercussions très importantes dans 50 ou 100 ans.
Donc c'est repenser la vie de la cité, en fait.
C'est repenser la vie de la cité et repenser la manière dont on l'inscrit dans la durée. Et effectivement, il y a un rapport du Sénat de la fin de l'année dernière sur l'adaptation en France qui a conclu que les efforts faits sur l'adaptation aujourd'hui étaient très insuffisants par rapport à l'amplitude des risques et des besoins. Donc effectivement, aujourd'hui, les efforts sont encore insuffisants. Mais on a de plus en plus de la connaissance, on a une prise de conscience. On a des outils, on a aussi beaucoup de créativité, hein, qui est beaucoup de choses qui sont testées aux échelles locales. Donc on peut avoir bon espoir que la mise en place de mesures d'adaptation va passer à une vitesse supérieure assez rapidement. L'atténuation, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation des puits de carbone. C'est quelque chose qui est totalement complémentaire de l'adaptation. Et d'ailleurs, il faut aussi essayer de penser les mesures d'adaptation en cohérence avec des mesures d'atténuation. Et là, un exemple très immédiat, c'est la chaleur, justement, encore. Une mesure très efficace d'adaptation à la chaleur, c'est la climatisation. C'est très efficace pour réduire le risque chaleur, mais ça pose énormément de questions en termes déjà d'une part d'inégalité sociale, puisque tout le monde n'a pas accès à la climatisation. Donc est-ce qu'une mesure d'adaptation qui n'est accessible qu'aux personnes qui peuvent s'équiper individuellement ou qu'aux entreprises qui peuvent offrir ce confort à leurs employés, est-ce que c'est une mesure d'adaptation qui est souhaitable, équitable et durable? Et d'autre part, c'est une mesure qui augmente énormément la température de l'air extérieur avec les méthodes classiques de climatisation et qui contribue énormément aux émissions de gaz à effet de serre. Donc est-ce qu'une mesure d'adaptation qui n'est pas une mesure d'atténuation, est-ce que c'est souhaitable? Après, une fois qu'on a posé ça, en fait, il y a des méthodes en termes d'architecture, en termes de méthodes de refroidissement urbain, qui sont des alternatives à la climatisation, qui sont très intéressantes et qui peuvent résoudre en partie ce problème des inégalités sociales et ce problème des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'aucun sujet, en fait, n'a une réponse simple et directe. Que derrière chaque réponse, chaque choix qu'on fait, il faut être en capacité de questionner les conséquences en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'inégalités sociales, en termes d'acceptabilité, et faire des choix, en essayant de chercher les solutions qui seront le plus intéressantes sur tous les volets, mais en acceptant aussi que parfois, il faudra faire des choix qui ne seront pas satisfaisants sur un des volets. Et c'est toute la difficulté aussi aujourd'hui de ces sujets-là, c'est que encore une fois, on ne peut plus se permettre de regarder un seul aspect du sujet et de ne pas s'interroger sur toutes les autres conséquences possibles des choix qui sont faits.
Oui, à vous entendre, ça me fait penser à la déminéralisation, en végétalisant les villes. Et moi, venant de la campagne, quand j'entends on va amener de la verdure dans les villes, ça a ses limites des fois, enfin, pour moi, hein, c'est que on va certes déminéraliser, mais on va amener aussi la végétation et sa faune avec. Et des fois, il peut y avoir des contraintes sanitaires qui disent qu'il faut être vigilant. Par exemple, amener de l'eau parce qu'il faut arroser des plantes sur des murs, c'est aussi amener des moustiques, c'est amener d'autres choses. Et ça peut avoir des effets de bord sous d'autres aspects, quoi.
Alors c'est la végétalisation, c'est justement un très bon exemple de ce besoin d'interdisciplinarité et de regard croisé et d'anticipation des situations. La végétation, c'est intéressant pour lutter contre la chaleur en ville, avec énormément de travaux qui documentent et qui expliquent comment végétaliser de manière efficace du point de vue de l'îlot de chaleur. On a aussi aujourd'hui beaucoup de travaux qui expliquent comment végétaliser pour améliorer la qualité de l'air, puisqu'il y a aussi un effet qui est moins important mais qui est quand même réel de la végétation sur la pollution de l'air. À côté de ça, il y a un nombre croissant d'études qui démontrent un effet très bénéfique de la végétation sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique, avec des études qui documentent une diminution de la mortalité dans les zones qui sont plus végétalisées, et des études qui sont très concordantes, beaucoup d'études qui sont faites à travers le monde sur ces questions-là et qui sont toutes très concordantes. Il y a aussi des études qui soulignent un rôle important des espaces verts sur le lien social, sur la création, et le maintien de liens sociaux. Et puis à côté de ça, il y a effectivement cependant du risque allergique, du risque vectoriel. Il y a aussi certains espaces verts, certains espaces végétalisés qui vont pas du tout favoriser le lien social parce qu'ils vont être conçus de manière à plutôt faire peur aux gens. Et donc finalement, on voit qu'il ne s'agit pas simplement de planter des arbres quelque part, mais il s'agit de réfléchir aux espèces qu'on va planter, à la gestion du risque allergique et vectoriel, puisque c'est des risques qu'on peut anticiper et qu'on peut gérer. Il faut réfléchir aussi à l'accessibilité, il faut réfléchir aux conséquences de cette végétalisation en termes d'inégalité sociale, il faut réfléchir à comment on amène les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de la nature à reprendre contact avec cette nature. Il y a effectivement des gens qui vont avoir des appréhensions vis-à-vis de la faune, par exemple, mais qui sont pas forcément une appréhension n'est pas forcément un risque sanitaire. Donc il faut peut-être aussi réapprendre aux gens à gérer ces espaces dont ils ont perdu l'habitude. Et donc tout ça, ça peut se faire qu'avec des regards croisés et avec justement en mettant au maximum les choses sur la table et en essayant de comprendre comment faire au mieux.
Effectivement. Mathilde Pascal, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour vos témoignages et votre regard porté sur la question de la convergence de la protection de la santé et de la protection de l'environnement. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé de projet scientifique Air Climat et Santé chez Santé Publique France.
Merci.
Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.